It's Morning Edition from NPR News.
Nancy Keys and Peter House.
France Inter, le 18.
Et ce soir, nous sommes avec un procureur européen, le procureur français du parquet européen. 20 ans pour que les membres de l'Union disent oui à ce parquet qui travaille depuis maintenant 6 mois. On verra ce qu'il a déjà réussi à faire, à quoi il sert, si ce n'est s'assurer notamment que l'argent du plan de relance va bien là où il doit aller. Le procureur français s'appelle Frédéric Bab et il est avec nous dans moins d'une minute. Le bruit du monde ce soir nous emmène là où, depuis plus de 20 ans là encore, on découvre très précautionneusement le plus vieux monastère de Terre Sainte. Oui, mais quand ce monastère est à Gaza, ça ne facilite pas les choses. Le bruit du monde, la suite. Sous les radars, Sébastien Legénie a trouvé des habitants brièvement de retour chez eux aux Canaries, maintenant que le volcan s'est endormi. Un cratère de gaz immense au Turkménistan et des crevettes au Brésil. 18h50, le monde selon Biden, comme chaque lundi avec Sébastien Paour. Un rendez-vous en Géorgie pour Biden. Et dans l'Arizona, cette semaine, pour Donald Trump, premier discours de 2022. Et pour dire quoi ? 18h55, c'est le monde d'après, signé Jean-Marc Four, avec le quatrième mandat de Mark Rutte, ou comment l'inoxydable Premier ministre néerlandais glisse doucement vers le social et vers l'écologie. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Ès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Frédéric Bab.
Bonsoir madame.
Bienvenue, vous êtes l'un des procureurs européens du parquet européen, il y en a 22, des comme vous. En tout, ce parquet supranational, je le disais tout à l'heure, a mis 20 ans et beaucoup d'obstacles avant de voir réellement le jour. Il est donc opérationnel depuis le 1er juin dernier, ça fait 6 mois, dirigé par la Roumaine Laura Kövesi. Et son travail, pardon de résumer un petit peu abruptement, mais c'est de veiller au bon usage des deniers de l'Union, tout simplement, avec pour ça des pouvoirs particuliers. On a dit, Frédéric Bab, au moment de l'arrivée de ce parquet européen, que c'était l'une des créations les plus ambitieuses de l'Union. On a même parlé d'un Big Bang judiciaire. Au bout de 6 mois, est-ce que vous diriez que le Big Bang est en cours ?
Le Big Bang, il est en cours, oui. Je pense qu'on peut le dire. Le bilan du parquet européen, il est très bon. D'abord, la première chose, c'est que cet organe d'enquête et de poursuite supranationale fonctionne.
Mmh. Bon. Ce n'était pas évident.
Mais non, ce n'était pas évident. C'était pas évident. On aurait pu imaginer que ça serait finalement une bureaucratie européenne difficile à mettre en œuvre et incapable de prendre des décisions dans le temps de l'enquête, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc nous avons déjà ouvert plus de 500 dossiers, ce qui est beaucoup.
C'est des dossiers de quoi, d'ailleurs, le plus souvent ?
C'est des dossiers qui portent à la fois sur les fraudes aux recettes, et les fraudes aux dépenses. Alors les fraudes aux recettes, c'est quoi ? C'est fraude à la TVA, c'est les fraudes aux droits de douane. Et les fraudes aux dépenses, c'est toutes les dépenses de l'Union européenne dans les États membres.
Alors on va y venir évidemment, mais est-ce qu'on dit qu'on est tous plus ou moins égaux, pardon, dans la fraude, ou est-ce que objectivement il y a un certain nombre de pays qui sont plus fragiles, on va le dire comme ça gentiment, et que vous pointez particulièrement les uns les autres ?
C'est difficile de faire un bilan au bout de 6 mois. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que la première image qui se dégage de cette nouvelle Europe judiciaire dépend quand même beaucoup des systèmes de détection des fraudes qui sont mises en place dans les États membres. Je vais prendre l'exemple de la France, très simplement. La France, c'est la deuxième économie européenne. Le parquet européen, c'est un parquet financier. Et donc, évidemment, notre activité en France doit être indexée sur le poids économique de la France. Vous savez combien on a de dossiers en France actuellement ? 5%. 5% de l'ensemble de l'activité opérationnelle du parquet européen. Autrement dit, aujourd'hui en France, c'est un constat qui avait déjà été fait par le sénateur Patrice Joly dans un rapport sur la fraude aux fonds européens en 2019. En France, aujourd'hui, notre système de détection des fraudes est insuffisant, est incapable de nous donner une vision complète de l'ensemble du phénomène en France.
Ce que vous dites, Frédéric Bab, c'est qu'il y a sûrement beaucoup plus de fraudes que ça en France.
Il y a un chiffre noir, de manière évidente, qui est beaucoup plus important que les fraudes qui ont été, pour l'instant, dénoncées au parquet européen.
Alors justement, comment ça remonte vers vous, justement ? Vous dites que les choses ne remontent pas assez. Comment elles remontent, ces affaires-là ?
Elles remontent directement au parquet européen. C'est un amendement qui a été introduit dans la loi Confiance, qui permet donc au parquet européen de recevoir directement de l'information, de toutes les sources d'information possibles.
Alors voilà, j'allais vous demander, c'est quoi vos sources le plus souvent, en fait ?
Ça peut être l'administration, ça peut être une autorité judiciaire, ça peut être une personne privée,
ça peut être moi, par exemple.
Pardon ?
Ça peut être moi, par exemple.
Ça peut être vous, demain, okay. Vous pouvez tout à fait dénoncer un soupçon de fraude aux fonds européens, au parquet européen.
Et alors, une fois que vous avez sur votre table, si j'ose dire, une alerte, on va le dire comme ça, vous saisissez qui ? Vous faites comment ? Est-ce que vous avez les deux mains parfaitement libres ? Est-ce que vous êtes autant juge d'instruction ? Au fond, donc l'enquête, c'est vous, Frédéric Babe, et vos services, évidemment, qui l'a diligenté.
Alors, deux choses. D'abord, le parquet européen est totalement indépendant. C'est inscrit dans le règlement, c'est inscrit dans sa pratique, c'est inscrit dans le mode de nomination des procureurs européens et des procureurs européens délégués. Donc nous agissons dans une totale indépendance, aussi bien à l'égard des États membres qu'à l'égard des institutions européennes.
Vous ne répondez à personne, sauf éventuellement à votre patronne, la roumaine de...
Alors je réponds à ma patronne, et ma patronne va répondre chaque année de son action, va rendre compte de son action aux institutions européennes.
Donc, vous avez sur votre bureau un signalement. Qu'est-ce que vous faites derrière ? Comment ça se passe,
en fait ? On ouvre une enquête. Mm-hmm. On ouvre une enquête et nous allons utiliser, ce sont les procureurs européens délégués, c'est-à-dire l'échelon décentralisé, autrement dit les points de contact du parquet européen dans les États membres, qui vont conduire eux-mêmes les enquêtes et exercer eux-mêmes les poursuites.
Donc vous ne déléguez jamais au système judiciaire de chaque pays, c'est ça l'idée. Une fois que vous avez bouclé cette affaire-là, il faut traduire en justice. Le principe, c'est de traduire en justice, évidemment, dans chacun des pays.
C'est ça.
Et certainement pas dans une espèce de supra-juridiction. Là, pour le coup, c'est pas le cas. Est-ce que là aussi, vous avez ce pouvoir-là ? Qu'est-ce qui se passerait potentiellement si, alors on peut pas imaginer que ça se passe chez nous en France, mais que dans un pays, quel qu'il soit, le pays dise « non mais vous êtes bien gentil, mais moi je ne traduis pas cette personne ». Quel est votre pouvoir là-dessus ?
Le pays ne peut tout simplement pas intervenir dans les procédures suivies par le parquet européen. C'est aussi simple que ça. Si nous, au terme de l'enquête, nous décidons d'exercer des poursuites devant le tribunal judiciaire de Paris, en France, c'est ce tribunal, cette juridiction qui sera compétente pour les affaires du parquet européen, eh bien nous prenons cette décision sans qu'il puisse y avoir la moindre interférence du pouvoir politique ou du pouvoir en général, du pouvoir administratif sur les décisions que nous prenons.
Est-ce que vous avez le droit de faire appel, vous, si
bien
vous
sûr.
Considérez ? Donc c'est là, au nom du procureur européen, que vous faites appel ?
Au nom du procureur européen, nous faisons appel.
Est-ce que vous pouvez enquêter à tous les niveaux, y compris à des très hauts niveaux de l'État, à l'intérieur du gouvernement, etc., s'il le fallait ?
Nous pouvons le faire dans la limite du code de procédure pénale français.
Comment vous voyez arriver, en général, Frédéric Babe ? Est-ce que vous êtes entré dans le paysage, au fond, le paysage judiciaire, avec votre casquette européenne ?
Ouais.
Donc on vous voit arriver et on vous dit voilà. Ou est-ce qu'on vous regarde un peu comme on regarderait, l'IGPN pour les flics ou des choses de ce genre-là ? Comment on vous regarde arriver ?
L'accueil a été très bon pour l'instant.
Ouais. Hein ?
Les services de Bercy, par exemple, mm-hmm. la Direction générale des finances publiques, la Direction générale des douanes, nous ont réservé un accueil excellent, parce qu'ils voient en réalité l'intérêt qu'ils ont eux-mêmes à pouvoir donner aux enquêtes qu'ils conduisent une dimension judiciaire.
Mm-hmm.
Donc le parquet européen a été très bien accueilli.
Vous avez le droit à faire des visites inopinées, par exemple ? Est-ce que vous avez un droit de perquisition ou de choses comme ça ? Comment ça se passe ?
Alors, comme n'importe quel procureur, étant précisé qu'en ce qui nous concerne, en France, puisque la France connaît encore l'institution du juge d'instruction, mm-hmm. les procureurs européens délégués exercent eux-mêmes les prérogatives du juge d'instruction dans la limite de leur statut, c'est-à-dire ils sont des procureurs et les actes les plus attentatoires aux droits fondamentaux sont ordonnés par le juge des libertés et de la détention. Donc vous avez un équilibre mmh. qui se fait entre le procureur européen délégué d'un côté et le juge des libertés et de la détention de l'autre.
Frédéric Babe, dans certains pays, c'est compliqué de pointer du doigt, mais il y a des infractions qui tombent sous le sens parce qu'il y a des systèmes mafieux que l'on connaît et qui agissent à l'intérieur du pays et qu'il faut tenter de démanteler. C'est bien ce que fait d'ailleurs la présidente de ce parquet dans son pays, la Roumanie. Elle a été extrêmement courageuse d'ailleurs à beaucoup d'égards. frontières. Je pense donc à un pays comme celui-là, je pense à la Slovénie aussi, puisqu'il y a eu des soucis sur la lenteur de nomination du procureur dans un pays comme celui-là. Vous disiez, en France, on est que à 5%. C'est vrai, mais les portes sont ouvertes. Comment ça se passe dans ces autres pays, qui sont évidemment des pays bien plus difficiles que ça? Est-ce que vous sentez bien qu'il y a une difficulté? Est-ce que c'est ça qui remonte aussi? Est-ce que c'est plus difficile dans ces pays-là que ça peut l'être dans les nôtres?
Eh bien, si on peut dire ça. On voit aujourd'hui, en tout cas, qu'il y a une masse très importante d'informations qui remontent de ces pays-là vers le parquet européen et un nombre important d'enquêtes qui sont ouvertes. Mmh. C'est difficile de dire qu'aujourd'hui, dans tel ou tel pays, il y aurait une réticence particulière à l'égard du parquet européen. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça.
Est-ce que vous savez que vous aurez là, dans les mois qui viennent, plus de remontées peut-être, y compris d'ailleurs chez nous en France, parce que le plan de relance européen est là, parce que ce sont des sommes qui sont colossales et qui déjà ont été distribuées et sont utilisées maintenant? Est-ce que vous regardez ça, par exemple, avec un œil particulier?
C'est notre cœur de métier, hein, pour dire les choses simplement. Et ce plan de relance, en effet colossal, puisque pour la période 2021-2027, c'est 1 800 milliards d'euros. Hein. C'est évidemment pour nous un défi à relever. Et on voit bien que cette manne financière qui commence à se déverser sur les États membres et sur les opérateurs économiques va nécessairement engendrer un volume important de fraude qu'il faudra combattre.
Est-ce que ça veut dire que vous vous sentez suffisamment nombreux, notamment pour lutter contre ça? Est-ce que parfois on se dit, en France par exemple, avec vous en tête, vous êtes combien?
Bonne question, nous sommes quatre.
Quatre, voilà, ça fait pas beaucoup de monde.
Ça fait pas beaucoup de monde, surtout quand on se compare aux effectifs des autres États membres.
Par exemple,
l'Italie, ils sont à 15 et bientôt 20. Par exemple, l'Allemagne, ils sont 11 procureurs européens délégués. Autrement dit, aujourd'hui, la France, c'est un tiers de l'Allemagne, un quart de l'Italie au sein du parquet européen.
Et ça, c'est une volonté? Ça dit, vous aurez besoin de ça, de 4 personnes, et ça ira très bien, merci Monsieur Bab? Ou est-ce que... pourquoi on est si peu nombreux par rapport à nos voisins très immédiats?
Alors, c'est une évaluation qui a été faite par rapport à l'activité envisagée ou présumée du parquet européen en France.
Donc, on est parti du principe que vous n'aurez rien à faire en France, en fait, en gros. Alors, ce qui n'est pas vrai, visiblement.
Mais il faut qu'on ait à l'esprit quand même que aujourd'hui, notre priorité en France, c'est de renforcer le système de détection des fraudes. Et donc, ça va nécessairement entraîner une augmentation de notre volume d'activité. Par ailleurs, la France, au sein du parquet européen, doit tenir son rang. La France a porté le parquet européen avec l'Allemagne en 2013. Le point de départ, c'est une déclaration politique de Christiane Taubira et de son homologue allemande, la ministre fédérale de la Justice. Il faut que la France, aujourd'hui, soit à ce niveau-là d'ambition. Et donc, en effet... Je pense que cette mise en œuvre du parquet européen en France n'est pas encore achevée et nous aurons besoin d'avoir des moyens supplémentaires pour tenir, encore une fois, simplement notre rang.
C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on a le sentiment que nous avons eu cette volonté en France, mais tout en disant « mais c'est pas pour nous ». En fait, c'est pour les autres, parce que nous, on triche pas, en fait. En creux, c'est ce que j'entends dans ce que vous dites.
Pas seulement, c'est aussi tout simplement en relation avec les moyens dont dispose la justice en France. Souvenez-vous que le parquet national financier commence avec 5 magistrats.
Le vrai talon d'Achille, Frédéric Bab, de ce parquet, c'est ceux qui ne veulent pas y participer. Il y a un certain nombre de pays, pour l'instant, qui rechignent. Évidemment, on pense tout de suite à la Hongrie, on pense à la Pologne. On est dans deux espèces de zones de non-regard, en fait, là, dans l'Union européenne.
C'est vrai. En effet, pour l'instant, il y a encore 5 États membres qui ne participent pas au parquet européen. En même temps...
La Hongrie, la Pologne, l'Irlande, la Suède, le Danemark, pour des raisons diverses d'ailleurs. Hein, mais le nom de principe, notamment, est un nom hongrois, un nom polonais, notamment, pour les raisons qu'on connaît d'ailleurs.
Pour les raisons qu'on connaît. Cela étant dit, c'est aussi un long processus, la mise en place du parquet européen. Vous l'avez rappelé, il a fallu 20 ans entre l'idée initiale qui est portée par Mireille Delmas-Marty et la conclusion de la négociation en 2017. De la même manière, je pense que ce processus d'installation dans le paysage européen et le paysage judiciaire européen du parquet européen va continuer, va se prolonger. Et avec 22 États membres qui participent déjà au parquet européen dans le cadre de ce qu'on appelle une coopération renforcée, c'est en réalité déjà un vrai succès politique.
Vous, vous plaidez même pour qu'on aille plus loin, pour qu'on étende les compétences de ce parquet. Vous parlez notamment des infractions environnementales. On parle de quoi, par exemple ?
Les infractions environnementales, c'est très simple. Ce sont toutes les infractions graves qui portent atteinte à l'environnement. Qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple les trafics de déchets dangereux, c'est les trafics d'espèces, c'est les grandes pollutions, c'est la mise sur le marché de produits ou d'appareils qui peuvent engendrer des dommages à la santé publique. C'est tout cet ensemble d'infractions graves, d'atteintes graves à l'environnement qui sont la plupart du temps et presque par définition transnationales qu'il faut poursuivre, et il me semble qu'on devrait réfléchir un peu sérieusement à étendre la compétence du parquet européen dans ce domaine.
Alors c'est très touchy, pardon de le dire comme ça, parce que ça se parle aussi de vente de pesticides, ça parle effectivement de déchets, vous le dites, mais et on sait bien jusqu'à quel point tous ces sujets pesticides peuvent être très compliqués entre membres de l'Union. Néanmoins, j'ai cru comprendre que il avait été proposé à un moment un parquet spécifiquement environnement. Est-ce que ça vous paraît judicieux et travailler avec, en fait, ou est-ce que non, il faut inclure ça à l'intérieur de vos compétences ?
L'idée est la même en réalité. Vous avez une proposition qui est faite au départ. Le projet est envisagé par le Parlement européen et vous avez une demande qui est adressée par le groupe parlementaire Renaissance Europe en juillet 2021 à la présidente de la Commission européenne et qui l'invite à créer un parquet environnemental européen.
C'est ça, c'est même la Commission qui avait lancé l'idée, si je ne m'abuse, non ?
La Commission, pour l'instant, ne l'a pas retenue, même si l'idée, évidemment, l'intéresse. Quand on voit aujourd'hui le paquet environnement qui a été déposé par la Commission européenne, dans lequel nous avons un projet de révision de la directive pénale sur la protection de l'environnement. On voit que cette directive ne va pas jusqu'au bout de la logique. Elle prévoit que les États membres mettent en place des stratégies nationales. Or, on voit qu'il faut dépasser ce niveau national aujourd'hui si on veut être réellement efficace et aller vers un niveau européen. Vous voulez que je vous donne un exemple ?
Rapidement.
La fraude au moteur diesel de la marque Volkswagen.
Ah ouais, ouais.
On voit que dans un dossier comme celui-là, où les enjeux financiers sont extrêmement importants, la coopération judiciaire atteint rapidement ses limites.
Allez-y.
Pardon, non, j'en ai fait l'expérience quand j'étais à l'époque membre national français à Eurojust. C'est un dossier que j'avais suivi.
Une toute dernière chose, parce qu'on est déjà en retard. Est-ce que ça veut dire que la présidence française, c'est le moment de relancer cet élargissement de compétences vers l'environnement ou pas ? Est-ce que
C'est un moment politique à saisir pour lancer cette idée.
En tout cas, on sera ravis de vous accueillir à nouveau à ce moment-là. Et c'est passionnant. Merci beaucoup,
Frédéric Babe,
avec nous dans Un jour dans le monde.
Le 18-20. Fabienne Saintès sur France Inter.
La suite ce soir nous bascule dans un tout autre univers. Nous allons à Gaza, où se trouve, vous l'ignoriez sans doute, le site archéologique le plus vieux de Terre Sainte. La troupe qui vous accompagne jusqu'à 19h sous les radars, Sébastien Logénie.
Le Turkménistan veut refermer les portes de l'enfer. Je ne vous en dis pas plus.
Eh bien, le monde, selon Joe Biden, n'est pas tout à fait en enfer. Sébastien Paour, bonsoir.
Bonsoir, Biden veut faire passer sa loi qui doit protéger le droit de vote des minorités. Et Trump, lui, pendant ce temps, met des sous de côté pour peut-être revenir en 2024.
Et le monde d'après, Jean-Marc Faux, bonsoir.
Bonsoir à tous, on va s'intéresser à Teflon Mark, l'inoxydable Premier ministre néerlandais Mark Rutte, quatrième mandat depuis ce matin, et un glissement vers le social et l'écologie.
Allez, tout de suite à tout le monde. À tout de suite tout le monde, dans l'ordre, voilà. Le tour de la planète continue et il passe par le Brésil. Caetano Veloso sur France Inter.
Olho pro cristalino corcovado e em silêncio grita bababá. Tudo esquisito, tudo muito errado, mas a gente chega lá. Tem muita treta, treta tenuama, mas tem sertanejo, treta, pagodão. Ana Vitória, doce beijo, donça, maravilha, Mendonça, afinação. Vai chegando que a gente vai chegar. Sem samba não dá.
Sem samba não dá. Sem samba não dá. Sem samba não dá. Sem samba.
Sem samba não dá. Sem samba não dá. Sem samba não dá. Sem samba não dá. Sem samba.
Sem samba nejo, pago brejo, tem ferro, tem glória, grude, Maiara e Maraíza. E o tem Baca, Chuta, Blue, tem gente pra chuchu. Sendo David, Gabriel, Borel, Gabriel, Borel, Gabriel, Borel.
Olho pro Cristo ali no Corcovado, e em silêncio grita e bababá. Tudo esquisito, tudo muito errado, mas a gente chega lá. Tem muita treta, treta, tem muamba, mas tem sertanejo, trap, pagodão. Ana Vitória, doce beijo, donça, maravilha, Mendonça, afinação. Vai chegando que a gente vai chegar. Vê se rola, tudo vai rolar. Só que sem samba não dá.
Vous entendez gratter le bruit du monde ce soir est en Palestine avec les 20 ans d'un chantier exceptionnel dans un lieu partiellement coupé du monde. Nous sommes à Gaza, où des archéologues restaurent le plus vieux monastère chrétien de Terre Sainte. Saint-Hilarion, fondé au 4e siècle, découvert en 1997. Les travaux, eux, ont commencé en 2001, régulièrement interrompus, vous l'imaginez, par les guerres et les conflits. Mais vous allez l'entendre, un archéologue passionné et son équipe continuent le travail malgré tout. Et le reste, c'est Frédéric Mettezeau qui raconte.
En bord de mer, à une dizaine de kilomètres de l'Égypte, le site recouvert de sable pendant des siècles s'étend sur 14 000 mètres carrés, dont 8 000 de vestiges proprement dits. La construction des différents bâtiments s'est faite du 4e au 6e siècle byzantin et à la fin du 7e siècle des Omeyyades. L'archéologue Fodel Al-Outoul, 40 ans, dirige les opérations. Il s'arrête à l'entrée du baptistère devant une superbe mosaïque au sol qui représente le jardin d'Éden.
C'est très belle mosaïque, magnifique mosaïque. Il a dessiné un cheval, les oiseaux, lapins aussi, les canards aussi, la vigne. Parce que la vigne, ça booste au sol, ça présentait la vie.
Et puis le vin, très aussi important dans la Bible.
Bien sûr, il a présenté aussi le vin de Gaza, comme les meilleurs vins de la monde entière de cette période.
Et on fait encore du vin aujourd'hui à Gaza ou pas? Et
non, normalement non. Aujourd'hui c'est haram même.
C'est péché.
C'est péché, c'est interdit.
Juste à côté, Fodel sait qu'un trésor reste encore à exhumer.
On est voir ici tous les sables, il y en a les mosaïques, grand bande de mosaïques, de là, les nefs sud, jusqu'à où il y a les voûtes et la crypte.
Ça veut dire que sous ce sable, on a un panneau mosaïque qui fait une vingtaine de mètres.
Oui.
La descente d'un escalier en bois nous permet de découvrir le clou de la restauration. Avec des pierres blanches parfaitement ajustées, des murs et des voûtes ont été reconstruits.
On va voir la crypte. C'est la crypte la plus grande en Palestine. On voit bien ici, on a restauré la voûte ici, il y a les hauteurs, presque 5 mètres de la haut jusqu'en bas. Tous les tailleurs, les pierres, ça, on a taillé à la main, comme à l'époque.
Vous avez fait les joints à la chaux?
Oui, exactement. Tous les joints, ça, on a fait à la chaux avec le sable. Il met de le four, brûlé avec les bois, après les sorties, il mélange avec les coquillages, avec les cendres. Après le mélange, il fait le mortier. Comme ça, ça tient.
Les tailleurs de pierre travaillent sur place. L'essentiel de l'équipe a été formé à Gaza, mais pas Fodel. Dès l'âge de 14 ans, dans son camp de réfugiés, il se passionne pour l'archéologie et finit par être repéré par l'école française biblique de Jérusalem qui l'envoie en apprentissage au Louvre. Passionné, volubile, intarissable, Fodel est très attaché à raconter l'histoire de la Palestine.
Je suis musulman. Tous les étudiants et les ouvriers, tous nous sommes musulmans. Tout ça racontait l'histoire de la Palestine. Tout. Les chrétiens, c'est un palestinien, ou les musulmans, c'est un palestinien. Ça fait, il n'y a pas de différence. Nous, on intéressait l'histoire. On voit le hammam.
On entend bien le vent, là, hein?
Ah oui. Oui. C'est un hammam byzantin. cinquième, sixième. Ici, en fait, le deuxième hammam, le bain, c'est Omoyade islamique. Il n'y a pas de différence, ils vivaient ensemble, comme nous sommes maintenant.
Avec aussi son auberge et son réfectoire pour les moines et les pèlerins, Saint-Hilarion, fondé par le père du monachisme en Palestine, était un lieu central dans l'Orient chrétien au Moyen-Âge.
Ici, c'est des sites très, très, très importants. Comme les pèlerins, ils viennent par les Méditerranéens. Il est parti vers la Sinaï, il est parti vers Jérusalem aussi. Le plus grand, peut-être, de la Palestine.
Le chantier n'aurait jamais pu fonctionner sans l'aide des gouvernements européens, le British Council ou le Consulat général de France. Mais une ONG, Première Urgence Internationale, organise aussi toute la logistique, raconte Jihad Abou Hassan, son coordinateur terrain.
À Gaza, il y a beaucoup de trésors archéologiques. Gaza est sous blocus depuis pratiquement 15 ans. Il y a une crise financière au sein de l'autorité nationale palestinienne. Et donc la priorité est plutôt pour les besoins de base, la nourriture, l'eau et l'abri, la santé.
Pourquoi c'est important de préserver et de restaurer le patrimoine alors qu'il y a 1000 autres chantiers à faire à Gaza?
Le patrimoine, c'est aussi un droit pour le peuple palestinien, c'est connaître son histoire, essayer de faire de patrimoine un développement socio-économique. C'est possible, c'est aussi pour montrer une autre image de Gaza, pour les enfants, pour la récréation, pour connaître, pour comprendre l'histoire, pour la valoriser, etc. Il n'y a pas que la violence qui est à Gaza.
Partant de paix, Saint-Hilarion peut accueillir jusqu'à 300 visiteurs par jour.
Formidable histoire racontée par Frédéric Mettezo pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars. Et c'est Sébastien Legénie. Et ça, c'est l'éruption du Cumbre Vieja aux Canaries. Les premiers habitants ont enfin pu revenir chez eux la semaine dernière.
L'éruption de ce volcan espagnol sur l'île de La Palma aura duré plus de 3 mois, du 19 septembre dernier au 25 décembre 2021 exactement. Noël, date officielle où il a été déclaré inactif. 85 jours d'activité, la plus longue éruption jamais recensée sur l'île, pendant lesquelles la lave a détruit plus de 1300 maisons et recouvert plus de 1250 hectares de terre, des plantations de bananes, d'avocats, de vignes. Au total, 7000 personnes évacuées pendant ces 3 mois et 1000 d'entre elles ont donc eu la possibilité la semaine dernière de revenir sur place, leur maison épargnée par la lave mais submergée par la cendre noire. Cette habitante de 65 ans revient chez elle mais n'a pas le droit d'y rester. Sa maison est encore inhabitable et surtout, dit-elle, l'un des plus gros problèmes, c'est qu'il n'y a pas d'eau pour nettoyer. Si j'avais de l'eau, j'utiliserais un tuyau, je nettoierais la plus grande partie. Les autorités ont promis qu'elles le feraient, mais pour le moment, c'est nettoyage, nettoyage, nettoyage au balai, à la pelle et à la balayette. Le plus dur, c'est pour les chefs d'entreprise, les exploitants de bananes qui ont tout perdu. Mais les experts, eux, se veulent rassurants. Le volcan est désormais rendormi, probablement pour un demi-siècle au moins. Et la nature va très rapidement reprendre ses droits sur la nouvelle langue de lave, une terre très fertile. On devrait y voir le retour des végétaux et des animaux dès l'an prochain.
Allez, direction le Turkménistan, où là c'est un cratère de gaz qui fait l'actualité.
Un cratère de 70 mètres de large sur 30 mètres de profondeur situé aux confins de ce pays d'Asie centrale, très fermé et qui regorge de ressources énergétiques. Un gouffre au cœur du désert que l'on surnomme depuis 50 ans les portes de l'enfer. Ce cratère de la région du Darvaza brûle en effet sans discontinuer depuis 1971 et le président turkmène a décidé ce week-end qu'il était temps de l'éteindre, trop néfaste pour l'environnement et la santé des habitants. Alors revenons aux origines de ce lieu incroyable devenu l'endroit le plus touristique du Turkménistan ces dernières années. L'histoire raconte que c'est en faisant des forages pétroliers dans les steppes turkmènes qu'en 1971, des géologues soviétiques percent accidentellement un énorme poche de gaz provoquant un effondrement du sol. À l'époque, l'URSS craignant des émanations de gaz toxiques préfère mettre le feu au cratère, pensant pensant que le méthane finirait par s'épuiser. Sauf qu'un demi-siècle plus tard, eh bien, le brasier brûle encore. Les autorités ont bien essayé de l'éteindre à plusieurs reprises, mais sans succès. Le président turkmène Gurbanguly Berdimuhamedov, j'allais le rater, a donc demandé qu'on trouve enfin des solutions, mais on a peine à croire que l'entreprise réussisse. Ce qu'on entend là, c'est le président turkmène lui-même dans son dernier show télévisé, du rap joué, chanté avec son petit-fils. Autant dire que ce président très autoritaire semble plus préoccupé par le culte de sa personnalité que par la défense de la nature. Les portes de l'enfer ne sont donc pas prêtes d'être refermées, Fabienne.
Et puis alors, ça n'a vraiment rien à voir quand un crustacé devient un symbole politique.
Ça se passe au Brésil, où la crevette a été érigée ces derniers jours en héros national et en symbole antifasciste par les opposants au président d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Alors faisons là aussi un petit retour en arrière. Le président Bolsonaro, victime d'un coup de couteau dans le ventre en 2018, il a depuis la santé fragile, une dizaine d'opérations en 4 ans et dernier pépin de santé en date, une occlusion intestinale la semaine dernière, dont l'origine n'est autre qu'une crevette que le président brésilien a visiblement mal mastiquée. On entend là Bolsonaro à la sortie de l'hôpital avouer qu'il a en effet avalé un plat de crevettes de camarão un peu trop rapidement, et son médecin personnel d'ajouter, on l'entend aussi, qu'il faut mastiquer au moins 15 fois avant de déglutir. Voilà pour le conseil alimentaire. Sauf que depuis, cette histoire, il fallait s'y attendre, est devenue virale sur les réseaux sociaux brésiliens. Le 5 janvier est désormais le jour national de la crevette antifasciste. La crevette qualifiée de guerrière du peuple brésilien, transformée en faucille marxiste, les fruits de mer, qui devraient être les stars de la prochaine campagne présidentielle brésilienne, car le principal adversaire de Bolsonaro n'est autre que Lula. Lula qui en portugais signifie, je vous le donne en mille, calamar.
Voilà, de là au panier de crabe, donc dans la politique brésilienne, il n'y a qu'un pas.
Joli,
morf, morf, merci beaucoup Sébastien Legénie. Vous revenez demain, vous partez avec Amethyst Kia, qui est née dans le Tennessee. Black Myself sur France Inter. Amethyst, Kia, Black Myself sur France Inter, qui nous permet de rester aux États-Unis avec Sébastien Power, comme chaque lundi.
France Inter, un jour dans le monde.
Le monde selon Joe Biden, l'Amérique de Biden. Un petit peu enlisé, Sébastien, en ce début d'année. Les cas de Covid sont en hausse, les réformes sont coincées. Le président américain essaye d'avancer sur un autre sujet, du coup.
Oui, sur la question du droit de vote des minorités. L'inflation galope, on en a déjà parlé ici, Omicron aussi, mais son plan d'investissement Build Back Better est toujours à l'arrêt. Alors, la Maison-Blanche cherche à pousser au moins un pion en ce début d'année, effectivement, son projet de réforme électorale qui doit permettre de protéger l'accès au vote, notamment des Afro-Américains, qui sont essentiellement, évidemment, des électeurs démocrates. Pourquoi cette réforme? Parce que plusieurs États républicains essaient de faire passer des lois pour les restreindre, ces droits, depuis la défaite de Trump, par exemple en limitant le vote par correspondance ou en interdisant de distribuer des sandwichs dans les files d'attente devant les bureaux de vote comme le font certaines ONG. Biden a donc dans ses cartons un texte de réforme fédérale, mais lui aussi est bloqué par les républicains au Sénat. Jeudi dernier, anniversaire de l'invasion du Capitole, tous les médias étaient en boucle sur le thème défense de la nation. Biden a dit dans son discours qu'il ne laisserait personne mettre le couteau sous la gorge de la démocratie. Et avant lui, la vice-présidente Kamala Harris a elle aussi profité du recueillement autour de ce 6 janvier pour mettre en garde, depuis toujours le siège du Congrès américain, sur la nécessité de voter cette nouvelle loi.
L'esprit américain est mis à l'épreuve et la tâche qui nous attend ne sera pas facile. C'est ici, dans ce même bâtiment, que sera prise la décision de faire respecter le droit de vote et de garantir des élections libres et équitables. Soyons clairs, nous devons adopter les projets de loi sur le droit de vote qui sont actuellement devant le Sénat.
Et pour défendre ces acquis qui datent de la lutte pour les droits civiques, le président et la vice-présidente seront demain à Atlanta, en Géorgie, état du sud emblématique de ces luttes, avec des arrêts très symboliques au programme, sur les traces de Martin Luther King, au Morehouse College, l'université où il était étudiant, et à l'Ebenezer Church, l'église où il était pasteur.
Et pendant ce temps, Sébastien, Trump fait monter la sauce, lui, sur son meeting de samedi prochain.
Ah oui, rafale de SMS et de mails, possibilité d'avoir accès avant tout le monde à son discours en échange de quelques centaines de dollars, suspense entretenu dans chaque message sur ce qui sera son premier rallye de l'année. Et si l'ancien président, perdant de 2020, se déclarait candidat pour 2024, samedi soir, depuis la banlieue de Phoenix en Arizona, l'hypothèse circule dans les médias ici et sur les réseaux sociaux, on verra ça, ça paraît un peu tôt, même l'équipe Trump lui dit d'attendre les élections de mi-mandat en novembre. En attendant, le 45e président continue de récolter des en ligne. Ça fait un an qu'il a été banni de Facebook et de Twitter, vous vous souvenez, notamment, c'était les 7 et 8 janvier 2021. Un an qu'il est privé au total de ses quelques 150 millions de followers tout de même, mais il fait encore recette grâce aux listes de courriers électroniques de partisans qui ont été amassés par son entourage. Le Wall Street Journal nous apprend qu'il a dépensé 15 millions de dollars en publicité sur Facebook l'an dernier par le biais de comptes amis ou du Parti Républicain et qu'il a récolté plus de 110 millions de dons en ligne en 2021 grâce aux très nombreux mails quotidiens que reçoivent ceux qui, comme moi, se sont abonnés un jour soit à son site, soit ont demandé à accéder à l'un de ses meetings. Facebook a déjà prévu de revoir la suspension de Trump dans un an. Lui a porté plainte l'été dernier contre ces suspensions. On verra ce que ça donnera en justice. Et on attend toujours le lancement de sa plateforme à lui, son réseau, qui doit s'appeler Truth, la vérité.
Allez Sébastien, on termine tout nu et sous acide, mais vous d'abord, si je puis me permettre.
C'était l'ambiance à Woodstock en août 69. Le festival hippie de toutes les libertés, évidemment, c'était dans les Catskills, un peu plus de 2 heures de New York. 3 jours de concerts et d'amour qui vont rester dans l'histoire des États-Unis et bien au-delà. Pourquoi je vous parle de Woodstock? Parce que l'un des organisateurs vient de mourir. Il s'appelait Michael Lang. Il a disparu samedi à 77 ans. Ça valait bien l'hymne américain sur la guitare de Jimi Hendrix sur scène. C'était à Woodstock à l'époque.
Et ouais, c'est toujours le même, mais on l'aime quand même, ce Jimmy d'autrefois. Merci beaucoup, Sébastien. Et évidemment, à la semaine prochaine, à jeudi prochain.
À lundi prochain.
Oui, là.
Fabienne Synthèse, le 18-20.
pourtant vrai qu'on est lundi.
Oui, on est lundi.
Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, après 10 mois de négociations post-électorales, les Pays-Bas ont à nouveau un gouvernement depuis ce matin. À nouveau, c'est le libéral de centre-droit Mark Rutte qu'il dirige, surnommé Teflon, parce que tout lui glisse dessus apparemment. Rutte enchaîne son 4e mandat avec une orientation plus progressiste que lors des 3 précédents. Et le secret de sa longévité, c'est sa capacité d'adaptation. C'est votre monde d'après.
Oui, il y a un an, on disait Rutte proche de la sortie définitive. Il démissionnait suite à un gros scandale, baptisé Toslaren Affaire en néerlandais. Répétez après moi, Fabien. Toslaren Affaire. En gros, des contrôles très excessifs et même du harcèlement sans preuve contre de prétendus fraudeurs aux allocations familiales. Un an plus tard, revoilà Mark Rutte. Il est dorénavant le dirigeant le plus ancien en fonction au sein de l'Union européenne avec le Hongrois Orban. Et s'il va au bout de ce 4e mandat, il battra le record de longévité au pouvoir aux Pays-Bas. Alors, quel est le secret de Rutte? Vous allez voir, il y a des enseignements à en tirer. Son premier talent, c'est l'art de monter des coalitions, autrement dit de trouver des compromis. Le système politique néerlandais l'impose. C'est un régime parlementaire avec un scrutin proportionnel intégral. Conséquence, 13 partis représentés à l'Assemblée et les députés peuvent renverser le gouvernement à tout instant par une motion de défiance. Donc il faut faire des compromis pour gouverner, comme en Allemagne. Et à ce jeu-là, Rutte est un orfèvre. Avec son équipe libérale de centre-droit, il a bâti un nouveau gouvernement avec les mêmes partenaires que la dernière fois, 2 partis de droite et 1 parti libéral de centre-gauche, D66, mais en modifiant les équilibres au profit de ce dernier, le centre-gauche, parce que c'est le seul à avoir progressé dans les urnes. Bref, Rutte s'adapte au verdict démocratique.
Et donc ça donne un gouvernement plus progressiste que les précédents.
Oui, d'abord il y a le symbole, un gouvernement à parité, 20 ministres, 10 hommes, 10 femmes, dont plusieurs sur des postes à haute responsabilité, et 2 portefeuilles attribués à des personnalités issues de l'immigration, Dina Nezilgöz d'origine turque à la justice, et Frans Verwindt, originaire du Suriname à la protection des droits. Ensuite, il y a la priorité donnée à l'environnement, confiée à un jeune ministre de 34 ans, Rob Jetten, issu du mouvement D66, 35 milliards de budget sur 10 ans pour assurer la neutralité carbone à l'horizon 2050, dans un pays qui veut réduire sa dépendance au gaz, un pays qui regarde aussi avec inquiétude la montée des eaux liée au réchauffement. Un tiers des Pays-Bas est sous le niveau de la mer. Enfin, il y a donc la réorientation sociale, voire social-démocrate. Elle s'incarne en Sigrid Kaag, chef de file de D66, nommée vice-première ministre et ministre des Finances, poste clé, avec un budget de dépenses ambitieux, en particulier sur la santé et plus encore sur le logement. Objectif, construire 1 million de nouveaux logements en 10 ans, c'est l'un des défis majeurs des Pays-Bas, confrontés à une pénurie immobilière. En résumé, Mark Rutte fait bouger ses propres lignes et il affiche un programme qui se rapproche de la nouvelle coalition allemande dirigée par les sociaux-démocrates.
Mais alors, en quoi ça peut avoir des conséquences pour nous, la France ?
La première conséquence à court terme, cette inflexion politique des Pays-Bas est une bonne nouvelle pour les ambitions françaises pendant sa présidence du Conseil de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que Mark Rutte, malgré son côté Macron néerlandais, est longtemps apparu en Europe comme l'homme qui disait non à Paris, l'homme de la rigueur budgétaire, le porte-étendard des pays dits frugaux, avec Sigrid Kaag aux finances dont je vous parlais. Changement de ton, le nom peut devenir oui, parce que la chef de file de D66 veut une Europe plus forte et elle est sensible aussi au concept d'autonomie stratégique européenne chère à Paris. Et puis il fait guère de doute que Emmanuel Macron observe avec attention l'évolution de Mark Rutte, et les deux hommes, on l'a dit, ont beaucoup de points communs. Et il y a une leçon politique à tirer de ce qui se passe aux Pays-Bas. Pour espérer durer, il faut savoir évoluer et tenir compte du résultat des urnes. L'avenir dira si, à l'image de la bifurcation prise par ce Rutte numéro 4, un éventuel Macron 2 divergerait du Macron 1. Mais il y a une différence de taille quand même. Le régime présidentiel français, avec son mode électoral législatif majoritaire qui survalorise le poids du candidat et du parti arrivé en tête, avec une conséquence mécanique, une tendance du vainqueur à se croire tout puissant et à négliger l'esprit de compromis et l'esprit de coalition qui sont aujourd'hui les marques de fabrique de l'Allemagne et des Pays-Bas.
Le monde d'après de Jean-Marc Four, tous les soirs dans Un jour dans le monde. À demain Jean-Marc, bien sûr, demain mardi. Pour nous, le 18-20, la suite c'est le journal d'Hélène Philippe, il téléphone sonne juste après. Bonne soirée avec nous.